Chapitre 13. Un résidu. Le peuple retombé dans l'infidélité est asservi à l'ennemi du dedans, aux Philistins établis dans le territoire d'Israël. C'est la dernière période de l'histoire du déclin. Les fils d'Israël ne crient plus à l'Éternel. Souffrant cette domination, ils ne désirent pas même en être délivrés. Chapitre 15, verset 11. Et 3 000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson, « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Et que nous as-tu fait ?» Et, pour vivre tranquille sous cet esclavage, ils cherchent à se défaire de leur libérateur. Nous touchons au temps de leur complète apostasie. Au milieu de cet état de choses irrémédiables, Dieu sépare un résidu pieux et lui adresse ses communications. Manoa et sa femme craignent l'Éternel, écoutent sa voix et se parlent l'un à l'autre. Voir Malachie 3, verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel ont parlé l'un à l'autre, et l'Éternel a été attentif et a entendu, et un livre de souvenirs a été écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et pour ceux qui pensent à son nom. Type frappant du résidu des Marie et des Élisabeth, des Anne, des Zacharie et des Siméon attendant le vrai Messie, le Sauveur d'Israël. Type aussi de ce résidu futur qui, traversant la tribulation, suivra les sentiers de justice, attendant la venue de son roi. Samson, le libérateur d'Israël, trouve à sa naissance, non pas un peuple qui l'acclame, mais ce couple pieux qui croit en sa mission. Le Seigneur, rejeté du peuple dès son arrivée sur la scène, ne trouve que quelques âmes fidèles auxquelles il se puisse associer, ces excellents de la terre mentionnés au psaume 16 dans lesquels il trouve ses délices. Le temps de la ruine irrémédiable est donc le temps des résidus. Il en est de même pour la période actuelle de l'Église. Le souverain prophète annonce cette période à ses disciples quand il leur parle d'une assemblée réduite à 2 ou 3, réunie autour du vrai centre, autour du nom de Christ pendant son absence. Cette période est mentionnée par l'Apocalypse lorsque, en présence de l'idolâtrie de Thyatire, de la mort de Sardes et de la tiédeur écœurante de Laodicée, l'approbation du Saint et du Véritable est prononcée sur le faible résidu sanctifié de Philadelphie. Ce qui caractérise le résidu en tout temps, c'est le Nazaréat, l'entière séparation afin d'être à l'Éternel. L'ange de l'Éternel, apparaissant à la femme de Manoa, lui dit « Voici, tu es stérile et tu n'enfantes pas, mais tu concevras et tu enfanteras un fils. Et maintenant, prends garde, je te prie, et ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange rien d'impur. » Versets 3 et 4. Cette femme avait à se revêtir du Nazaréat parce qu'elle était le vase choisi de Dieu pour présenter au peuple le Sauveur promis. Car voici, tu concevras et tu enfanteras un fils, et le rasoir ne passera pas sur sa tête, car le jeune garçon sera nazaréen de Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. Verset 5. Le nazaréat de Samson impliquait celui de sa mère. Pour faire honneur au Sauveur d'Israël, ses témoins devaient porter aux yeux de tous les marques de son propre caractère. Cette vérité est de tous les temps. Si nous ne portons pas ici-bas le caractère de Christ, caractère d'entière séparation pour Dieu, nous ne sommes pas les témoins de notre Sauveur. Depuis l'apparition de Christ, le Nazaréat permanent doit caractériser les fidèles comme il caractérise le Seigneur. Plus la ruine augmente, plus il est mis en évidence. La deuxième épître à Timothée, qui nous présente les temps de la fin, est rempli des caractères du Nazaréat. Au chapitre 2, verset 19, « Qu'il se retire de l'iniquité, quiconque prononce le nom du Seigneur. C'est le Nazaréen se retirant de tout contact avec le péché. Au chapitre 2, verset 21, « Si donc quelqu'un se purifie de ceci, il sera un vase à honneur, sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. » Sa purification pour Dieu. Au chapitre 3, versets 10 et 11, « Mais toi, tu as pleinement compris ma doctrine, ma conduite, mon but constant, ma foi, mon support, mon amour, ma patience, mes persécutions, mes souffrances, telles qu'elles me sont arrivées à Antioche, à Iconium et à Lystre, quelles persécutions j'ai endurées. » Et au chapitre 4, versets 5 à 7, « Mais toi, sois sobre en toutes choses, endure les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, accomplis pleinement ton service, car pour moi je sers déjà de libation, et le temps de mon départ est arrivé, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Le serviteur de Dieu marchant dans l'oubli de lui-même, dans la dépendance complète du Seigneur. N'est-ce pas le Nazaréen qui parle en 2 Corinthiens 4, versets 7 à 12 « Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non pas de nous, étant dans la tribulation de toute manière, mais non pas réduit à l'étroit, dans la perplexité, mais non pas sans ressources, persécuté, mais non pas abandonné, abattu, mais ne périssant pas, portant toujours partout dans le corps la mort de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes toujours livrés à la mort pour l'amour de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi donc, la mort opère en nous, mais la vie en vous. » Au chapitre 6 à 7, verset 1 de cette même épître, nous retrouvons encore le Nazaréen sous ses traits principaux. Au verset 4 à 10, l'opprobre et l'oubli de soi-même. Au verset 14 et 15, la séparation de toute association avec le monde. Au chapitre 7, verset 1, la purification de toute souillure de chair et d'esprit. On pourrait multiplier les citations. Ce qu'il importe d'établir, c'est qu'il n'y a pour nous ni marche, ni témoignage, ni service sans le Nazaréen, c'est-à-dire sans la consécration et la séparation pour Dieu. Au verset 6, la femme de Manoa raconte à son mari la visite de l'ange. « Un homme de Dieu est venu vers moi et son aspect était comme l'aspect d'un ange de Dieu, très terrible. Et je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. » Cette pauvre femme a peu d'intelligence. Elle ne sait ni d'où l'ange vient, ni qui il est, et ne le lui demande pas, preuve de son peu d'intimité avec Dieu. Loin de la rassurer, la présence du Dieu des promesses l'effraye, car elle ne voit l'ange que sous son aspect très terrible. Manoa lui-même, homme d'une piété sincère, a peu de connaissances, mais désire en avoir davantage. Il veut savoir ce qu'il doit faire au jeune garçon, verset 8, puis ce que le jeune garçon devra faire, verset 12. Au lieu de répondre à ces questions, l'ange de l'Éternel lui dit « La femme se gardera de tout ce que je lui ai dit. Elle ne mangera rien de ce qui sort de la vigne, et elle ne boira ni vin ni boisson forte, et ne mangera rien d'impur. Elle prendra garde à tout ce que je lui ai commandé. » Versets 13 et 14. Pourquoi ? C'est que Dieu ne demande pas la connaissance en premier lieu. Ni celle-ci, ni même une vraie piété, comme celle de Manoa et de sa femme, ne suffisent pour nous garder au milieu de la ruine. Ce qu'il leur fallait avant la connaissance, c'était la vraie séparation personnelle pour Dieu, séparation qui avait pour modèle et pour mesure le Nazaréen de celui qui était près de paraître. D'autres vérités, partage des témoins de Christ en un temps de déclin, nous sont encore révélées ici. Manoa dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom ?» Et l'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est merveilleux. » Et Manoa prit le chevreau et le gâteau, et il les offrit à l'Éternel sur le rocher. Et il fit une chose merveilleuse, tandis que Manoa et sa femme regardaient. Versets 17 à 19. En repassant l'histoire des différentes périodes de ce livre, nous trouvons qu'à chaque réveil correspondent certains principes qui le caractérisent. Les temps d'Othniel, d'Éhude, de Barak, de Gédéon, de Jephté présentent chacun quelques principes nouveaux. Mais Dieu réserve au dernier temps de la ruine des vérités précieuses entre toutes, cachées jusqu'alors et merveilleuses. Cette manière d'agir est digne du Dieu d'amour. Connaissant les difficultés des siens au milieu de l'infidélité grandissante, et voulant arracher leur cœur à ce milieu ténébreux, il met en lumière et confie à ses témoins des vérités de plus en plus glorieuses. Ces vérités ont le sacrifice pour point de départ. Manoa, plus intelligent que Gédéon, qui offrit de la chair bouillie, voir chapitre 6, verset 19, prend le chevreau et le gâteau et les offre à l'Éternel sur le rocher. La croix est le fondement de toute notre connaissance comme enfant de Dieu. Manoa désirait connaître beaucoup de choses que l'Éternel ne peut lui révéler avant le sacrifice. Mais ce fondement posé, l'ange fait une chose merveilleuse, révélée sans doute d'une manière encore obscure et symbolique aux yeux de ce pauvre résidu qui attendait un sauveur. Il arriva que, comme la flamme montait de dessus l'autel vers les cieux, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel, Manoa et sa femme regardant. Verset 20. Il trouve dans le feu du sacrifice un chemin nouveau, non frayé jusque-là, chemin du représentant de l'Éternel pour remonter vers lui, et leur regard, attaché sur l'ange, voit une personne glorieuse dont ils connaissent la demeure, maintenant qu'elle a disparu de devant leurs yeux. Alors seulement Manoa connut que c'était l'ange de l'Éternel. Verset 21. Le cœur, les intérêts de ce pauvre résidu sont en ce moment sortis de ce monde et prennent le chemin de l'ange pour monter avec lui dans les cieux. Ces simples croyants pourront parler désormais d'un chemin qui conduit dans le ciel et d'une personne qui s'y trouve, devenue leur objet, tandis qu'ils sont encore ici-bas. Dans cet acte merveilleux, une chose encore était révélée, non pour Manoa, mais pour nous. Le caractère futur de ce Nazaréa dont l'ange leur avait parlé. Il est maintenant céleste, comme nous l'avons dit plus haut. L'ange, en se séparant d'eux, se sépare dans le ciel. Le Seigneur Jésus, rejeté du monde, a dit « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Jean 17, verset 19. Séparés dans les cieux, il nous attire à sa suite et fixe nos yeux sur lui-même, afin que nous reproduisions ici-bas le caractère céleste de celui que le monde a rejeté. Devant cette révélation, à peine entrevue par eux, mais qui nous sert d'instruction, les époux tombèrent sur leur face contre terre. Verset 20. Et nous, n'adorerons-nous pas bien plus, au milieu des ténèbres grandissantes, le Dieu qui nous a révélé, avec un Christ céleste et glorieux, notre place en lui, et nous l'a donné comme objet, afin que nous puissions le reproduire dans ce monde. De telles bénédictions sont faites pour remplir nos cœurs de joie et de reconnaissance. Que des chrétiens, cherchant leur place avec le monde, marchent ici-bas la tête penchée en voyant l'état de choses qui les entourent, qu'ils affligent chaque jour leurs âmes, comme faisait jadis le juste Lot, telle n'est point notre part. Nous ne sommes pas appelés à jouer le rôle de Lot ici-bas. Notre part est avec Abraham, l'ami de Dieu. La ruine n'abattait pas son âme. Comme Nazaréen, il se tenait sur sa haute montagne, les yeux fixés non sur Sodome, mais sur la cité qui a des fondements. Jésus a dit de lui, « Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, et il l'a vu, et il s'est réjoui. » Jean 8, verset 56. Ah, plutôt que de nous décourager, bénissons Dieu. Rendons-lui grâce du trésor céleste qu'il nous a donné en Christ. Comme tant de cœurs chrétiens aujourd'hui, celui de Manoah est rempli de crainte quand il se trouve devant Dieu. Il dit à sa femme, « Nous mourrons certainement, car nous avons vu Dieu. » Verset 22. Sa compagne lui est vraiment une aide. « Y a-t-il lieu de craindre, dit-elle, quand Dieu a accepté notre offrande ? L'amour de Dieu montré pour nous à la croix nous est le sûr-garant de tout le reste. Celui même qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous fera-t-il pas don aussi librement de toute chose avec lui ? Romains 8, verset 32.